Chapitre 11. Contrairement à ses prévisions, il dormit à point fermé toute la nuit, et il se réveilla le lendemain lucide et hagaillardi, très calme. Cette scène de la veille, qui devait exacerber ses sens, produisit l'effet absolument contraire. La vérité, c'est que Durtal n'était nullement de ceux que les obstacles attirent. Il essayait une seule fois de foncer dessus, et dès qu'il jugeait ne les pouvoir culbuter, il s'écartait, sans aucun désir de renouveler la lutte. Si Madame Chantelouve avait voulu l'affiler plus encore par ses escales ménagées et ses retards, elle avait fait fausse route. Il s'émoussait, se sentait ce matin-là déjà ennuyé de ses mimiques, las de ses attentes. Une pointe d'aigreur commençait à se mêler aussi à ses réflexions. Il en voulait à cette femme de l'avoir ainsi lanternée, et il s'en voulait à lui-même de s'être laissé berner de la sorte. Puis certaines phrases, dont l'impertinence ne l'avait pas du tout d'abord surpris, le froissaient maintenant. Celle où, à propos de ses rires nerveux, Madame Chantelouve avait sur un ton négligent répondu « Cela me prend souvent dans les omnibus ». Cette autre surtout, où elle affirmait n'avoir besoin ni de sa permission ni de sa personne pour le posséder, lui semblait pour le moins malséante, adressée à un homme qui n'avait pas couru après elle et qui ne l'avait enlacée en somme par aucune avance. « Toi, dit-il, je te materai dès que j'aurai des droits. » Dans le réveil assagi de ce matin, la hantise de cette femme se relâchait. Résolument, il pensa. « Va encore pour deux rendez-vous, celui de ce soir chez elle, celui-là est inutile et ne compte pas, car j'entends ni ne me laisser investir, ni tenter de mon côté l'assaut. Je n'ai pas l'envie, en effet, d'être prise en flagrant délit par Chantelouve, de risquer la police correctionnelle ou le revolver. Et un autre, un dernier ici. Et si elle ne cède pas, eh bien ce sera clos. Elle ira jouer son rôle de frôleuse ailleurs. » Et il déjeuna de bon appétit, s'installa devant sa table et remua les matériaux épars de son livre. « J'en étais, se dit-il, en parcourant son dernier chapitre, au moment où les expériences d'alchimie ou les évocations diaboliques ratent. Prélati, Blanchet, tous les souffleurs et les sorciers qui entourent le maréchal avouent que pour amorcer Satan, il faudrait que Gilles lui cédât son âme et sa vie ou qu'il commît des crimes. Gilles refuse d'aliéner son existence et d'abandonner son âme, mais il songe sans horreur au meurtre. Cet homme si brave sur les champs de bataille, si courageux quand il accompagne et défend Jeanne d'Arc, tremble devant le démon. Sa peur lorsqu'il songe à la vie éternelle, lorsqu'il pense au Christ. Et il en est de même de ses complices. Pour être assuré qu'ils ne révéleront pas les confondantes turpitudes que le château scelle, il leur fait jurer sur les saints évangiles le secret. Certain qu'aucun d'eux n'enfreindra le serment, car au Moyen-Âge, le plus impavide des bandits n'oserait assumer l'irrémissible méfait de tromper Dieu. Toujours est-il qu'en même temps que ces alchimistes délaissent leur impuissant fourneau, Gilles se livre à d'effroyables ripailles, et sa chair incendiée par les essences désordonnées des rasades et des mets entre en éruption, boue en tumulte. Or, il n'y avait point de femme au château, et Gilles paraît du reste avoir à Tiffauges exécré le sexe. Après avoir baratté les ribaudes des camps et besogné avec les Xantrailles et les Laïres, les prostituées de la cour de Charles VII, il semble que le mépris des formes féminines lui soit venu. Ainsi que les gens dont l'idéal de concupiscence s'altère et dévie, il en arrive certainement à être dégoûté par la délicatesse du grain de la peau, par cette odeur de la femme que tous les sodomites abhorrent. Et il déprave les enfants de cœur de sa maîtrise. Il les avait choisis d'ailleurs, ces petits desservants de sa psalette, belles comme des anges. Ils furent les seuls qu'il aima, les seuls qu'en ses transports d'assassin, il épargna. Mais bientôt ce ragoût des pollutions enfantines lui parut tiède. La loi du satanisme qui veut que l'élu du mal descende la spirale du péché jusqu'à la dernière marche allait une fois de plus se promulguer. Ne fallait-il pas aussi que l'âme de Gilles purulât, pour qu'en ce rouge tabernacle, constellé d'abcès, le Très-Bas put habiter à l'aise. Et les litanies du Ruth s'élevèrent dans le vent salé des abattoirs. La première victime de Gilles fut un tout petit garçon dont le nom est ignoré. Il l'égorgea, lui trancha les poings, détacha le cœur, arracha les yeux, et il les porta dans la chambre du prélatis. Tous deux les offrirent dans des objurgations passionnées au diable qui se tut. Gilles, exaspéré, s'enfuit. Prélatis roula ses pauvres restes dans un linge et, tremblant, s'enfuit dans la nuit les inhumer en Terre Sainte auprès d'une chapelle dédiée à Saint Vincent. Le sang de cet enfant que Gilles avait conservé pour écrire ses formules d'évocation et ses grimoires s'épandit en d'horribles semailles qui le verraient bientôt dorer, puis engranger la plus exorbitante moisson de crimes que l'on connaisse. De 1432 à 1440, c'est-à-dire pendant les 8 années comprises entre la retraite du maréchal et sa mort, les habitants de l'Anjou, du Poitou, de la Bretagne, errent en sanglotant sur les routes. Tous les enfants disparaissent. Les pâtres sont enlevés dans les champs, les fillettes qui sortent de l'école, les garçons qui vont jouer à la pelote le long des ruelles ou s'ébattent au bord des bois ne reviennent plus. Au cours d'une enquête que le duc de Bretagne ordonne, les scribes de Jean Toucheronde, commissaire du duc en ces matières, dressent d'interminables listes d'enfants qu'on pleure. Perdu à la Roche-Bernard, l'enfant de la femme Perronne, un enfant qui allait à l'école et apprenait moult bien, dit la mère. Perdu à Saint-Étienne de Montluc, le fils de Guillaume Brice, lequel était pauvre homme et allait à l'aumône. Perdu à Machecoul, le fils de Georges le Barbier, qu'on a vu un certain jour cueillir des pommes derrière l'hôtel Rondeau et qui depuis n'a été vu. Perdu à Tonneille, l'enfant de Matelin Thouars, qu'on entend se plaindre est-ce et était le dit enfant de l'âge d'environ 12 ans. À Machecoul encore, le jour de la Pentecôte, les époux sergents laissent chez eux leur enfant âgé de 8 ans, et au retour des champs ils ne retrouvèrent plus le dit enfant, dont moult se merveillèrent et furent dolents. À Chanteloup, c'est Pierre Baldieu, mercier en la paroisse, qui dit que 1 an ou environ, il vit au pays de Ré, 2 petits-enfants de l'âge de 9 ans, qui étaient frères et enfants de Robin Pavot, au dit lieu, et on que depuis ce temps ne les vit, ni ne sait ce qu'ils sont devenus. À Nantes, c'est Jeanne Darel qui dépose que, le jour de Saint-Père, elle adira en la ville son sien fils nommé Olivier, étant en l'âge de 7 et 8 ans, et depuis cette fête de Saint-Père, ne le vit ni 8 nouvelles. Et les pages de l'enquête continuent, s'accumulent, révèlent des centaines de noms, narrent la douleur des mères qui interrogent les passants sur les chemins, les hurlements des familles dans les maisons desquelles les enfants sont ravis, dès qu'elles s'écartent pour bêcher les champs et semer le chanvre. Ces phrases reviennent de même que des ritournelles désolées à la fin de chaque déposition. On les voit s'en complaindre douloureusement. On entend moult lamentations. Partout où sont établis les charniers de Gilles, les femmes pleurent. Le peuple effaré se raconte d'abord que de méchantes fées, que des génies malfaisants dispersent sa géniture. Mais peu à peu, d'affreux soupçons lui viennent. Dès que le maréchal se déplace, dès qu'il va de sa forteresse de Tiffauges au château de Chantossé, et de là au castel de la Suze ou à Nantes, il laisse derrière ses pas des traînées de larmes. Il traverse une campagne et le lendemain des enfants manquent. En frémissant, le paysan constate, ainsi que partout où se sont montrés Prélatis, Roger de Bréqueville, Gilles de Sillé, tous les intimes du maréchal, les petits garçons ont disparu. Enfin, avec horreur, il remarque qu'une vieille femme, Périne Martin, erre, vêtue de gris, le visage couvert comme celui de Gilles de Sillé, d'une étamine noire. Elle accoste les enfants, et son parler est si séduisant, sa figure, dès qu'elle lève le voile, est si habile, que tous la suivent jusqu'aux lisières des bois, où des hommes les emportent, bâillonnés dans des sacs. Et le peuple épouvanté appelle cette pourvoyeuse de chair, cette ogresse, la Méfreye, du nom d'un oiseau de proie. Ses émissaires, rayonnés par tous les villages et les bourgs, chassés à l'enfant sous les ordres du grand veneur, le sieur de Briqueville. Non content de ses rabatteurs, Gilles s'installait aux fenêtres du château, et alors que de jeunes mendiants, attirés par la renommée de ses largesses, demandaient l'aumône, il les trayait du regard, faisait monter ceux dont la physionomie l'incitait au stupre, et on les jetait en un cul de basse fosse. Jusqu'à ce que, se sentant en appétit, le maréchal réclamât son souper charnel. Combien d'enfants égorgea-t-il, après les avoir déflorés? Lui-même l'ignorait, tant il avait consommé de viols et commis de meurtres. Les textes du temps comptent de 700 à 800 victimes, mais ce nombre est insuffisant, semble inexact. Des régions entières furent dévastées. Le hameau de Tiffauges n'avait plus de jeunes gens. La Suze, nul le couvait mal. À Champtocé, tout le fond d'une tour était rempli de cadavres. Un témoin cité dans l'enquête, Guillaume Hiléré, déclare aussi qu'un nommé Dujardin a ouï dire qu'il avait été trouvé au dit Châtel une pipe toute pleine de petits-enfants morts. Aujourd'hui encore, les traces de ces assassinats persistent. Il y a 2 ans, à Tiffauges, un médecin découvrit une oubliette et il en ramena des masses de tête et d'eau. Toujours est-il que Gilles avoua d'épouvantables holocaustes et que ses amis en confirmèrent les effrayants détails. À la brune, alors que leurs sens sont phosphorés, comme meurtris par le suc puissant des venaisons, embrasés par de combustibles breuvages semés d'épices, Gilles et ses amis se retirent dans une chambre éloignée du château. C'est là que les petits garçons enfermés dans les caves sont amenés. On les déshabille, on les bâillonne, le maréchal les palpe et les force, puis il les taillade à coups de dague, se complaît à les démembrer pièce à pièce. D'autres fois, il leur fend la poitrine et il boit le souffle des poumons. Il leur ouvre aussi le ventre, le flair, élargit de ses mains la plaie et s'assied dedans. Alors, tandis qu'il se macère dans la boue détrempée des entrailles chaudes, il se retourne un peu et regarde par-dessus son épaule afin de contempler les suprêmes convulsions, les derniers spasmes. Lui-même l'a dit, « J'étais plus content de jouir des tortures, des larmes, de l'effroi et du sang que de tout autre plaisir. » Puis il se lasse des joies fécales. Un passage encore inédit du procès nous apprend que le dicire s'est chauffé avec des petits garçons, quelquefois avec des petites filles avec lesquelles il avait habitation sur le ventre, disant qu'il y prenait plus de plaisir et moins de peine qu'à le faire en leur nature. Après quoi il leur sciait lentement la gorge, les dépeçait et l'ont placé le cadavre, les linges, les robes, dans le brasier de l'âtre bourré de bois et de feuilles sèches, et l'ont jeté les cendres, parti dans les latrines, parti au vent, en haut d'une tour, parti dans les fossés et les douves. Bientôt ses furies s'aggravèrent. Jusqu'alors, il avait assouvi sur des êtres vivants ou moribonds la rage de ses sens. Il se fatigua de souiller des chairs qui pantelaient et il aima les morts. Artiste passionné, il baisait avec des cris d'enthousiasme les membres bienfaits de ses victimes. Il établissait un concours de beauté sépulcrale et alors que de ses têtes coupées, l'une obtenait le prix, il la soulevait par les cheveux. Et passionnément, il embrassait ses lèvres froides. Le vampirisme le satisfit pendant des mois. Il pollua les enfants morts, apaisa la fièvre de ses souhaits dans la glace ensanglantée des tombes. Il alla même un jour que sa provision d'enfant était épuisée, jusqu'à éventrer une femme enceinte et à manier le fœtus. Puis, après ses excès, il tombait, épuisé, en d'horribles sommes, en de pesants comas, semblable à ces sortes de léthargies qui accablèrent après ces violations de sépulture le sergent Bertrand. Mais si l'on peut admettre que ce sommeil de plomb est une des phases connues de cet état encore mal observé du vampirisme, si l'on peut croire que Gilles de Rais fut un aberré des sens génésiques, un virtuose en douleur et en meurtre, Il faut avouer qu'il se distingue des plus fastueux des criminels, des plus délirants des sadiques, par un détail qui semble extra-humain, tant il est horrible. Ces terrifiants délices, ces monstrueux forfaits ne lui suffisant plus, il les corroda d'une essence de péché rare. Ce ne fut plus simplement la cruauté résolue, sagace du fauve qui joue avec le corps de sa victime. Sa férocité ne demeura plus seulement charnelle, elle s'aggrava, devint spirituelle. Il voulut faire souffrir l'enfant dans son corps et dans son âme. Par une supercherie toute satanique, il trompa la gratitude, dupa l'affection, vola l'amour. Alors il dépassa du coup l'infamie de l'homme et entra de plein pied dans la dernière ténèbre du mal. Il imagina ceci. Quand l'un des malheureux enfants était amené dans sa chambre, Briqueville, Prélati, Sillé, le pendait à un croc fiché au mur. Et au moment où l'enfant suffoquait, Gilles ordonnait de le descendre et de dénouer la corde. Il prenait alors avec précaution le petit sur ses genoux. Il le ranimait, le caressait, le dorlotait, essuyait ses larmes, lui disait en lui montrant ses complices « Ces hommes-là sont méchants, mais tu vois, ils m'obéissent. N'aie plus peur, je te sauve la vie et je vais te rendre à ta mère. » Et tandis que l'enfant éperdu de joie, l'embrassait, l'aimait à ce moment, il lui incisait doucement le cou par derrière, le rendait, suivant son expression, languissant, et lorsque la tête un peu détachée saluait dans des flots de sang, il pétrissait le corps, le retournait, le violait en rugissant. Après ces abominables jeux, il put croire que l'art du charnier avait exprimé avec ses doigts son dernier bourbillon, suinté son dernier pu. Et en un cri d'orgueil, il dit à la troupe des parasites « Il n'est personne sur la planète qui ose ainsi faire. » Mais si l'au-delà du bien, si le là-bas de l'amour est accessible à certaines âmes, l'au-delà du mal ne s'atteint pas. Excédé de stupre et de meurtre, le maréchal ne pouvait aller dans cette voie plus loin. Il avait beau rêver à des viols uniques, à des tortures plus studieuses et plus lentes, c'en était fait. Les limites de l'imagination humaine prenaient fin. Il les avait diaboliquement dépassées même. Il haletait insatiable devant le vide. Il pouvait vérifier cet axiome des démonographes que le malin dupe tous les gens qui se donnent ou veulent se livrer à lui. Ne pouvant plus descendre, il voulut revenir sur ses pas, mais alors le remords fondit sur lui. Le harpa, le tenailla sans trêve. Il vécut d'expiatrice nuit, assiégé par des fantômes, hurlant à la mort comme une bête. On le trouve courant dans les parties solitaires du château. Il pleure, se jette à genoux, il jure à Dieu qu'il fera pénitence, il promet de créer des fondations pieuses. Il institue à Mâchecoul une collégiale en l'honneur des saints innocents. Il parle de s'enfermer dans un cloître, d'aller à Jérusalem en mendiant son pain. Mais dans cet esprit mobile et exalté, les idées se superposent puis passent, glissent les unes sur les autres, et celles qui disparaissent laissent encore leur ombre sur celles qui les suivent. Brusquement, tout en pleurant de détresse, il se précipite dans de nouvelles débauches, délire dans de telles rages qu'il se rue sur l'enfant qu'on apporte, lui crève les prunelles, remue avec ses doigts le lait sanglant des yeux, puis il s'empare d'un bâton d'épines et frappe sur la tête jusqu'à ce que la cervelle saute du crâne. Et lorsque le sang gicle et que la patte du cerveau l'éclabousse, il grince des dents et rit, ainsi qu'une bête traquée. Il fuit dans les bois pendant que ses affidés lavent le sol, se débarrassent prudemment du cadavre et des hardes. Il erre dans les forêts qui entourent Tiffauges, des forêts noires et épaisses, profondes telles que la Bretagne en recèle encore à Carnoët. Il sanglote en marchant, écarte éperdu les fantômes qui l'accostent, regarde et soudain il voit l'obscénité des très vieux arbres. Il semble que la nature se pervertisse devant lui et que ce soit sa présence même qui la déprave. Pour la première fois, il comprend l'immuable salacité des bois, découvre des priapés dans les futaies. Ici, l'arbre lui apparaît comme un être vivant, debout, la tête en bas, enfui dans la chevelure de ses racines, dressant des jambes en l'air, les écartant, puis se subdivisant en de nouvelles cuisses qui s'ouvrent à leur tour, deviennent de plus en plus petites à mesure qu'elles s'éloignent du tronc. Là, entre ses jambes, une autre branche est enfoncée, en une immobile fornication qui se répète et diminue, de rameau en rameau jusqu'à la cime. Là encore, le fût lui semble être un phallus qui monte et disparaît sous une jupe de feuilles, ou bien il sort au contraire d'une toison verte et plonge dans le ventre velouté du sol. Des images l'effarent. Il revoit les peaux garçonnières, les peaux du blanc lucide des parchemins, dans les écorces pâles et lisses des longs hêtres. Il retrouve l'épiderme éléphantin des mendiants dans l'enveloppe noire et rugueuse des vieux chênes. Puis, auprès des bifurcations des branches, des trous bâillent, des orifices où l'écorce fait bourreler sur des entailles en ovale, des hiatus plissés qui simulent d'immondes émonctoires ou des natures béantes de bêtes. Ce sont encore, à des coudes de branches, d'autres visions, des fosses de dessous de bras, des aisselles frisées en lichen gris. Ce sont dans les troncs même de l'arbre, des blessures qui s'allongent en grandes lèvres, sous des touffes de velours roux ou des bouquets de mousse. Partout, les formes obscènes montent de la terre, jaillissent en désordre, dans le firmament qui se satanise. Les nuages se gonflent en mamelons, se fendent en croupes, s'arrondissent en des outres fécondes, se dispersent en des traînées épandues de laites. Ils s'accordent avec la bombance sombre de la futaie, où ce ne sont plus qu'images de cuisses géantes ou naines, que triangles féminins, que grand V, que pouches de Sodome, que cicatrices qui s'ébrasent, qui suent humides. Et ce paysage d'abomination change. Gilles voit maintenant sur les troncs d'inquiétants polypes, d'horribles loupes. Il constate des exostoses et des ulcères, des plaies taillées à pic, des tubercules chancreleux, des caries atroces. Et c'est une maladrerie de la terre, une clinique vénérienne d'arbres dans laquelle surgit au détour d'une allée un être rouge. Et devant ces feuilles empourprées qui tombent, il se croit mouillé par une pluie de sang. Il entre en rage, rêve que sous l'écorce une nymphe forestière habite, et il voudrait bafouiller dans de la chair de déesse. Il voudrait trucider la dryade, la violer à une place inconnue aux folies de l'homme. Il envie le bûcheron qui pourra meurtrir et massacrer cet arbre, et il s'affole, brame, écoute, hagard, la forêt qui répond à ses cris de désir par les huées stridentes des vents. Il s'affaisse, pleure, reprend sa marche jusqu'à ce qu'exténué, il arrive au château, écroule sur son lit comme une masse. Et les fantômes se précisent mieux maintenant qu'il dort. Les enlacements lubriques des branches, l'accouplement des essences diverses des bois, les crevasses qui se dilatent, les fourrés qui s'en trouvent disparaissent. Les pleurs des feuillages fouettés par la bise se tarissent. Les blancs abcès des nuées se résorbent dans le gris du ciel et dans un grand silence. Ce sont les incubes et les succubes qui passent. Les corps qu'il a massacrés et dont il a fait jeter les cendres dans les douves ressuscitent à l'état de larves et l'attaquent aux parties basses. Il se débat, clapote dans le sang, se dresse en sursaut et accroupi, il se traîne à quatre pattes, tel qu'un loup, jusqu'au crucifix dont il mord les pieds en rugissant. Puis, un revirement soudain le bouleverse. Il tremble devant ce Christ, dont la face convulsée le regarde. Il adjure d'avoir pitié, le supplie de l'épargner, sanglote, pleure, et lorsque, n'en pouvant plus, il gémit tout bas, il entend terrifié pleurer dans sa propre voix les larmes des enfants qui appelaient leur mère et criaient grâce. Et Durtal, emballé sur cette vision qu'il imagine, ferme son cahier de notes et juge, en levant les épaules bien mesquins, ses débats d'âme à propos d'une femme dont le péché n'est comme le sien en somme qu'un péché bourgeois, qu'un péché ladre.